Ça brûle.
Qu'est-ce que c'est?
C'est peut-être un coup de foudre.
Pour cette première semaine de janvier, les nouvelles vagues formulent des vœux réalisables, performatifs, enjoués mais vigilants, des grands vœux pour les grandes oreilles des présidents, mais aussi des vœux chuchotés pour vous et pour nous, pour que les premiers pas dans l'année se fassent bien, car ça compte. Hier, nous souhaitions un espace urbain vraiment partagé. Aujourd'hui, nous nous souhaitons des livres, des liens et des scènes intenses. Il est 14h, passé de bientôt 2 minutes sur France Culture. Ce n'est que le début, ravi de vous retrouver. Bienvenue à vous dans les nouvelles vagues. Et considérant que ces nouvelles vagues naissent toujours de moments marquants, nous écoutons chaque jour en fin d'émission quelqu'un nous raconter un de ces moments-là. Cette semaine, on retrouve le chef cuisinier Anthony Cointre et tout à l'heure, il nous parlera de ses premiers souvenirs de vigne et de ses grands-parents, Henriette et Placide. Rendez-vous pour l'histoire vers 14h45 et enfin nous terminerons l'émission par une minute de danse. Deuxième moment donc d'une semaine en forme de vœux. Nous nous sommes réunis dans les derniers jours de décembre et avons formulé 5 vœux extensibles pour 5 émissions en vrac. Nous souhaitons à 2016 et à tout le monde un espace urbain partagé également et sans violence entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les vieux, mais aussi un internet réinventé, de l'émancipation sous toutes ses formes et un cinéma français surprenant. Voilà le programme jusqu'à vendredi. Pour aujourd'hui, l'on se souhaite des intensités. Intensité de liens, intensité de scènes, intensité de verbes. Pour donner corps et force à notre vœu, nous sommes 3 vivants cet après-midi et quelques fantômes. Mackenzie Hursel, vous publiez L'ombre animale aux éditions Zulma en cette rentrée littéraire. C'est une voix venue du monde des morts qui porte et donne la parole à une multitude de visages et de vies d'un village haïtien. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Et Séverine Chavrier, de l'intensité, il y en a aussi dans Les Palmiers Sauvages. C'est une nouvelle de William Faulkner qui paraît en 1939 et que vous adaptez au théâtre. Ce sera repris dès jeudi prochain au théâtre d'Arras. Et vous travaillez par ailleurs, en ce moment, sur un autre texte de Thomas Bernard, Déjeuner chez Wittgenstein. Pour votre création, nous sommes repus mais pas repentis. Et ça, ça se jouera à Lausanne, à Besançon et au théâtre de l'Odéon à Paris à partir du mois de mars. Vous êtes au téléphone avec nous depuis Arras. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour.
Puisqu'on a décidé cette semaine de ne faire que des vœux, de faire beaucoup de vœux pour l'année 2016, ça vous inspire quoi, Mackenzie Hursel, cette tradition de se souhaiter des choses en janvier?
Et ça m'inspire un peu la nouveauté, le fait de passer de temps à un autre temps. En fait, on a l'impression qu'on passe de quelque chose à quelque chose d'autre. Et puis tout ce qu'on peut souhaiter, c'est de... Moi, j'adore les livres, c'est de vous souhaiter de continuer à prendre les livres en otage.
À être pris en otage par eux aussi?
Aussi, mais il ne faut pas trop se laisser aller quand même. Il faut... Je pense qu'il faut inventer aussi sa propre histoire, de vivre aussi dans la vie, d'être présent.
Quand vous dites qu'on a l'impression de passer d'un temps à un autre temps, vous le dites avec sincérité, vous avez vraiment l'impression en janvier à chaque fois de remettre quelque chose en jeu?
Non, pour moi ça continue, c'est comme toujours, moi j'écris, je lis, voilà quoi, je suis obsédé du présent, du maintenant. Et donc pour moi chaque maintenant a son intensité, sa force, et je continue de faire ce que j'aime faire.
Séverine Chavrier, vous, ça vous inspire quoi cette tradition des vœux en janvier?
Comme la persistance de peut-être de nos superstitions et le fait que on a besoin de toujours réinventer un rapport à l'autre qui soit plus humain et plus archaïque qu'on ne croit.
Et vous vous en souhaitez, vous, des vœux en janvier?
Oui, parfois. J'aime la relation de ça, c'est-à-dire c'est en fait dire aux gens qu'on les aime. Voilà, et qu'on leur souhaite en fait le meilleur. J'ai l'impression que c'est ça surtout.
Bien sûr, c'est un
l'autorisation
moment
de dire aux gens qu'on les aime.
Voilà. C'est un moment pour ça et c'est aussi un moment pour des choses peut-être moins intimes, un peu plus politiques, un peu plus collectives. Nous, on a décidé avec cette émission de formuler des vœux pour un monde, hier pour l'espace public, aujourd'hui pour la littérature, demain pour Internet. Est-ce que vous dites aussi que janvier, dans cet état de renouveau, c'est une façon de repenser le monde plus largement?
Oui, je pense, en tout cas, d'une exigence d'indépendance de pensée qu'on doit toujours, toujours batailler pour essayer, à travers tout ce qu'on nous dit et tout ce qu'on entend, de dégager quelque chose qui serait une singulière vérité, voilà. Donc, un regard critique. Mais est-ce qu'on en a vraiment les moyens? Je ne sais pas.
Il faut se les donner. Mackenzie Hursall, qu'est-ce que vous vous souhaitez, vous, pour 2016?
Rien. Je me souhaite sinon d'être toujours et ce fou qui aime les mots, qui veut construire des phrases intenses, et aussi de les faire publier.
La volonté d'intensité. Cette volonté d'intensité obligatoirement conduit à cette réduction des moyens. On peut renverser la chose. On peut dire que pour des raisons d'ordre extrêmement profond, l'élection d'une seule couleur, l'utilisation de peu d'outils, du moins d'outils possible, oblige ou conduit à une forme d'intensité. Et au fond, c'est ce qui importe. Mais cette simplicité, c'est une conquête. Et c'est une conquête et un très long travail, non seulement sur le plan de la réflexion, sur la technique elle-même, mais sur soi-même, d'abord.
C'est une archive de 1986, on entend la voix du peintre Pierre Soulages au micro de Charles Juliette. Une archive d'une émission diffusée sur France Culture, Mackenzie Hursall. Il est question de la volonté d'intensité qui se fait au prix de peu de moyens, de peu d'outils. D'une certaine manière, on peut dire que l'écriture manie peu d'outils ou peu de moyens. Est-ce que vous diriez cela aussi, que l'intensité de l'écriture passe par peu de moyens?
Ça peut passer partout. Ça peut, parce qu'une œuvre, C'est trois entités. Parfois, c'est le style, c'est la phrase et c'est autre chose aussi. Moi, je pense que l'écriture, déjà, c'est une quête d'éternité, une quête de sens, de langage et aussi de l'intensité. C'est une quête de l'intense. Moi, je dirais l'intense. C'est une quête de l'intense. On essaye de puiser quelque chose du visible ou de l'invisible et d'aller dans les bas-fonds de cette chose et d'en tirer le jus. Et toute l'intensité est là, dans la façon dont on extrait ce jus de quelque chose, de son ventre, de sa tête ou de ses pensées, et aussi dans la façon dont on essaye de transmettre ce jus.
Vous diriez que c'est une quête de l'intense qui vous anime depuis quand?
Depuis toujours, depuis mon enfance. Parce que ça passe aussi par la colère, par sa façon d'habiter, d'aborder le réel, par son rapport avec l'autre, par sa vision du monde.
À partir de quand c'est une quête de l'intense qui se transforme ou qui trouve sa forme dans l'écriture, précisément?
Et je dirais à partir du moment où j'avais besoin de transmettre quelque chose. Et tout à coup, j'étais comme obligé d'être exigeant, de trouver aussi le meilleur moyen, le moyen le plus intense, le plus vrai pour transmettre cette colère-là, ou cette joie-là, ou cet amour-là.
Et ce moyen-là, ça a été les mots, directement. Ce choix-là, vers ce médium, ça a été évident.
Non, c'était les mots, mais à travers la musique. Je pensais que je pouvais devenir chanteur, musicien. Et au fur et à mesure, je me rends compte que c'était pas ça. Que la scène, pour moi, il n'y a pas trop de solitude dans le fait de se mettre en scène comme ça, d'être sur une scène et chanter, jouer, animer en public et tout, ou toucher des gens, je sais pas. Et je préférais être dans un domaine où je pouvais à la fois être solidaire et solitaire avec moi-même.
Séverine Chevrier, quand on entend la voix de Pierre Soulages parler d'un travail et d'une quête, ce mot travail et travailler, il revient à plusieurs reprises sur la scène dans votre adaptation des Palmiers Sauvages de Faulkner. Vous diriez que cette quête de l'intense dont parle Mackenzie Orcel, elle passe d'abord par le travail ?
Évidemment, j'ai l'impression qu'il il associe intensité et radicalité, évidemment, et dans son idée de conquête, il y a aussi la force de sa concentration sur le même, quoi. Et c'est vrai que le théâtre est un art très artisanal et que il s'agit de creuser la même, je dirais pas le manque de moyens, mais plutôt la bonne utilisation des moyens pour en fait orchestrer l'ensemble vers le point fixe de ce qu'on veut raconter. Et évidemment, c'est vrai que par le travail, cette création a été particulièrement intense, d'ailleurs, parce qu'il a fallu en très peu de temps, en 6 semaines, faire cette adaptation d'un roman, où en fait l'histoire d'amour est décrite dans son parcours et dans sa fuite et dans sa fuite en avant, mais où les dialogues ne sont pas écrits. Donc il a fallu inventer cet amour-là, ses gestes et ses dialogues. Et comment les corps travaillent dans cette histoire et faire des allers-retours incessants entre la langue de Faulkner et l'invention des acteurs qui avaient valeur un peu de parole vernaculaire comme Faulkner l'aime, donc je me suis autorisée ça. Voilà, donc il y avait une chose un peu comme ça en apnée qui ressemble aussi à cette histoire. On était tendu par cette recherche de l'intensité et de la qui va dans cette histoire avec la rapidité.
Le fait d'avoir
fatal un peu.
Ouais. Le fait d'avoir peu de temps pour travailler, dit Séverine Chevrier, ça l'amène vers de l'intensité au plateau. Vous avez plutôt écrit sur un temps assez long, Mackenzie Orcel, L'ombre animale. Combien de temps vous a pris l'écriture de ce roman ?
Je l'ai commencé en 2011 et j'ai terminé en 2015. Donc 4 ans. Et parce qu'il faut effacer, il faut écrire, il faut tout à l'heure je parlais de jus, il faut trouver une certaine justesse verbale, quelque chose d'intense.
Est-ce qu'on en lit un extrait ?
Oui. Il n'en avait plus pour longtemps, alors que le temps était si lent, si dense à la fois. Chaque bribe de mon souffle fatigué en était le récit, chaque parcelle de mon corps. Dehors, comme pour exprimer ses regrets, le temps se déchirait, bourrasque de vent, pluie battante, déchaînement de vagues, toute cette dépression atmosphérique, dirait l'inconnu, dans sa langue soutenue de fille de la capitale. Ce souffle violent qui emportait tout sur son passage était pour moi, oui, c'était pour moi la vie. C'était la vie qui me souhaitait bonne chance sur les routes de la mort. Tout se passait dans ma tête. Le buissement des souvenirs à travers les sombres couloirs de l'enfance. Les mots qui s'abandonnent à de bizarres fantaisies. Jamais avant la chambre n'avait été aussi lointaine, aussi plate que la nuit. Pas un seul bruit. On n'entendait que le vent. Un vent chaud, chargé de sable. Il emportait tout sur son passage. Tout ce sur quoi les autres fondaient leur vie. Plus de croassement de grenouilles. Ce stupide cri que j'avais en horreur. Auquel je portais maintenant un intérêt si particulier. À la limite du ridicule. Le seul qui soit capable de me procurer le sentiment de flotter. Flotter loin de la terre, de tout. Il me manquait ce cri, plus que tout. Celui de la vie, son mouvement autour de moi. La preuve de quelque chose de vivant, d'indéniable. Oui, toute la solitude du monde était là. Et une fois ma nouvelle vie de cadavre entamée, j'étais libre d'oublier. de laisser couler ma vie, pourrir à ma guise. Ce qui a de si affreux quand on meurt, c'est qu'on est complètement seul. Mais je n'ai jamais eu peur de la solitude. Et puis, si par hasard les villageois tombaient sur mon cadavre, ils n'appelleraient personne. L'ambulance, la police, les juges de paix, les pompes funèbres. Ça n'existe pas ici, c'est pour là-bas, la capitale, le beau pays des opportunités et des lumières partout. Au contraire, c'est cutéreux, comme pour éviter aux autres un embarras. Dès qu'ils sentaient un simple malaise, ils se faisaient construire une tombe de la taille d'une maison, s'approvisionnant tout ce dont aurait besoin mort pour partir heureux, sans regret. Tout ce qu'ils n'osaient pas souffrir quand ils auraient pu, un tant soit peu, en profiter. Ils s'enfermaient chez eux et crevaient sans bruit, comme un rat dans son trou. Et au mieux, partaient le faire ailleurs, loin, dans les bois, comme une bête.
Pour ce rythme inférieur dont informe la mort, pour ce chagrin du temps en 625 lignes, pour le bateau tranquille et qui se meurt de port, pour ce mouchoir à qui tes larmes font déçus. Pour ce rythme inférieur dont informe la mort. Pour ce chagrin du temps en 625 lignes. Pour le bateau tranquille et qui se meurt de port. Pour ce mouchoir à qui tes larmes. Pour le cheval enfant qui n'ira pas bien loin. Pour le mouton gracieux, le couteau dans le rouge. Pour l'oiseau descendu qui te tient par la main. Pour l'homme désarmé devant l'arme qui bouge.
Mackenzie Orsel, c'est vous qui avez souhaité entendre la voix de Léo Ferré avec ce texte, ce poème chanté par Léo Ferré Requiem, où il parle du rythme inférieur dont informe la mort. Et ce sont des vers, une chanson qui fait suite à un passage de votre texte L'ombre animale, publié aux éditions Zulma. On entend la voix d'une mort qui porte la voix et la vie et le destin d'autres. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette voix d'une mort et d'où elle vient pour vous?
L'ombre animale, c'est un roman qui pose à la fois des questions simples et métaphysiques. En fait, c'est, tout à l'heure, on parlait de quête d'éternité. C'est l'aventure humaine qui continue à travers ce livre. Ça commence nulle part. Et à la fin, c'est la voix de cette femme, de ce cadavre qui passe la parole.
D'ailleurs, ce roman se termine par « Vous allez nous raconter quelque chose,
ouais,
trois petits
donc,
points ».
Donc, après, quelqu'un va devoir parler. Donc, c'est l'aventure humaine qui continue. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Et moi, je pense que ce que j'essaie de dire dans ce roman, c'est que c'est d'essayer de... Il faut éclater la vie. Éclater la vie, il faut aller au-delà de tout ce qui est naissance, appartenance, prison, Voilà, c'est une forme libre, c'est une langue assez chaude, charnelle, qui défile comme ça, comme une autoroute de parole. Et c'est une voix de femme, la voix d'un cadavre de femme qui raconte tout, qui raconte rien. Elle raconte sa vie, elle raconte la vie de sa famille, elle parle de ce père, de ce frère. Et ensuite, il y a comme une forme de décalage pour établir le dialogue entre la campagne, la ville, le pré-cartésien et la modernité. Et elle se projette dans le temps pour voir cette famille, en fait, sa famille, qui va à un moment donné quitter le village pour aller vivre à la capitale. On a l'impression que cette femme, elle comprend tout, elle voit tout. Mais moi, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, parce que dans la mythologie vaudou, celui qui est mort, il est dans la vérité et nous dans le mensonge.
Donc, c'est ce que j'allais vous dire. Vous dites, cette voix, elle doit éclater la vie, elle doit faire advenir le continuum et le cycle d'un présent continu. Et se pose la question de choisir une voix d'une vivante ou d'un vivant ou la voix d'une mort. Or, on a l'impression que la voix d'une morte vous permet plus de liberté. Ouais. Cette personne dit que parce qu'elle est morte, elle est libre.
Ouais, elle est libre parce qu'il y a aussi, c'est un personnage qui a vécu... qui a vécu des choses horribles, comme des belles choses aussi, qui a fait des rencontres, au fait qui a traversé la vie. Et comme c'est quelqu'un qui a traversé la vie et qui est mort maintenant, donc ce personnage est capable de nous dire des choses qu'il pouvait pas nous raconter avant, qu'il pouvait pas dire avant.
Parce que le lieu de la vie est un lieu qui est plus étriqué, qui est plus tenu par des frontières, où les voies sont plus à des places précises.
Ouais, ça peut être une prison. Parce que dans la vie, on a un appartement, on appartient à un pays, on a un passeport, on appartient à une communauté. Donc ça peut être une prison. Mais le mort, il appartient à personne. Il est libre. Il est libre parce que on sait pas où il est. On sait pas où il est. Et lui, j'imagine qu'il sait pas. Qu'il sait pas trop. Donc il est libre. Il a l'univers. L'univers lui appartient. Et il peut en parler.
Est-ce que vous diriez aussi que l'une des intensités que produit ce texte ou que cherche ce texte vient du fait que tout s'y côtoie et tout s'y bouscule, le présent, le futur, le passé, les femmes, les hommes, comme si tout se carambolait d'une certaine manière.
Oui, l'intensité est dans le dialogue. Le dialogue entre la ville et la campagne, la vie et la mort, le vrai, le faux, et le style et la langue, et la voix et son silence. Donc le choc, et forcément ça crée une certaine intensité.
Vous dites aussi que cette langue et ce texte doit éclater la vie, alors il le fait parce qu'il propose des formes de fleuves différents, des fleuves en fonction des personnes qu'emprunte la voix de cette morte pour les dire, pour les re-raconter comme
oui,
une épopée,
hein,
comme un poème épique. Mais c'est aussi cet éclatement, il procède aussi du nom. Vous signez ce roman Mackenzie Orcel, et Mackenzie c'est le nom d'un personnage, et Orcel c'est le nom d'un autre personnage, comme si votre propre nom était éclaté par le texte, comme si vous vous donniez presque en pâturage à votre propre existence. Comment ça s'est passé l'écriture? Comment on écrit en donnant son propre nom à deux personnages différents?
Ah non, c'est pas difficile, il faut juste avoir le courage de se dire moi j'ai des côtés lumineux chez moi et aussi des côtés sombres. Et moi j'ai laissé de côté ces côtés lumineux, tout ce que je sais déjà de Mackenzie Orcel pour questionner les côtés sombres de moi-même. Et forcément, moi je pense que chacun a un animal sauvage, un loup caché quelque part en lui. Et moi j'ai essayé d'aller vers ce loup, histoire de me réparer. À un moment donné, cette voix, cette femme, vers la fin du roman, elle a dit une phrase qui est très importante, qui résume tout le livre. C'est bizarre, mais ça résume tout le livre. Elle dit, je ne suis pas morte, je vais à ma rencontre. Et moi, je pense que j'ai écrit ce livre pour me rencontrer quelque part. Pour me sonder, pour réparer les blessures, pour combler les trous noirs, les vides.
Une façon de dire aussi que vous n'êtes pas mort, parce que donner votre nom à des personnages qui vont vivre dans un texte, c'est aussi aller chercher cette question-là. Je ne suis pas mort, je vais à ma rencontre.
Ouais, je suis pas mort parce que je suis dans un livre, même si c'est pas le Mackenzie Orcel qu'on connaît, parce que le personnage Mackenzie dans le roman, c'est un personnage horrible. Et Orcel, il est là, il est présent, c'est un beau personnage, c'est un personnage qui...
Il est la lumière, Orcel.
Ouais, c'est la lumière. Donc, il y a les deux. Il y a Orcel qui est un personnage lumineux et Mackenzie qui est un personnage sombre. Donc l'ombre animale, l'ombre de la mort, l'animal de la vie.
Quand je vous ai demandé comment s'étaient passées ces années d'écriture en vous jetant vous-même, votre nom en tout cas dans un texte, vous avez dit rien de difficile, il faut juste avoir le courage de se dire qu'on n'est pas que de,
c'est-à-dire
pas
le
que
courage,
de l'ombre.
Est-ce que vraiment c'est si facile? Le courage d'aller vers soi-même. C'est-à-dire le courage de se voir, de regarder à travers à travers ce miroir. Et c'est un exercice assez qui paraît à la fois complexe et simple. On est le miroir à travers lequel on se regarde. Donc l'ombre animale, c'est un peu ça. C'est-à-dire quelqu'un qui parle du lieu de la mort, de la vie. Quelle place accorder à la mémoire de ceux qui partent, des morts et aussi, la mort, qu'est-ce qu'elle peut nous dire de la vie? Donc c'est...
Ce qui n'est pas une petite question, qui est une question pour le moins intense. La mort, qu'est-ce qu'elle peut nous dire de la vie?
Oui, est-ce le pari, c'était ça, c'est d'arriver à faire parler un mort, à faire parler quelqu'un du lieu de la mort.
Est-ce que cette personne qui parle du lieu de la mort vous permet aussi de parler d'Haïti?
De tout, parce que la mort c'est pas une thématique ou une problématique haïtienne. La mort ça nous concerne. Ça fait partie de nous-mêmes, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de l'instant, du maintenant. Et donc il faut pas avoir peur de parler de la mort, il faut pas avoir peur de l'aborder, de l'habiter même. La thématique de la mort, c'est une thématique qui a traversé toute la littérature mondiale, le théâtre, la peinture, la sculpture. Ouais. Il y a un poète qui a dit, pour écrire un vers, il faut coucher avec les morts. Et moi, quand on écrit, on a vraiment l'impression de partager un lieu, de partager ce lieu, je ne dirais pas la mort, mais de passer à une forme d'inconnu, de passer à une forme d'horizon flou. On est en transe, on est là, on n'est pas là. Si quelqu'un tape sur la porte, on
ne sait pas quoi répondre.
Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc moi, je me dis, au lieu de parler de la vie de ce lieu, au lieu de parler de ce lieu, du lieu de la vie, je fais l'inverse.
No creo que seamos tan diferentes.
Je ne crois pas que nous soyons tellement différents les uns des autres.
Ce que je souhaite,
c'est que vous compreniez que la solitude, c'est quelque chose qui nous appartient à tous.
Creo que no... que como decía Leonardo da Vinci, ¿no? Que el dolor de un hombre es el dolor de todos los hombres.
Leonardo da Vinci, la douleur d'un homme, c'est la douleur de tous les hommes.
Naturalmente lo hago con esa idea en la cabeza, ¿no?
Alors évidemment, j'ai travaillé
pensando
avec ça à l'esprit.
Sachant que
nous tous, nous sommes complices des mêmes sentiments.
Aunque a veces no los reconozcamos.
Quitte à ne pas le reconnaître parfois.
Luego, sí, claro, hay un
Mais il est évident qu'il y a un cordon ombilical entre le particulier et l'universel. Sinon, de toute façon, la relation avec le public ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas ce lien.
Qu'on le reconnaisse ou non, on est tous complices des mêmes sentiments. C'est la voix d'Angelika Liddle au micro de Laure Adler dans l'émission Hors Champ, diffusée en 2011 sur France Culture. Vous disiez tout à l'heure, Mackenzie Orcel, j'ai choisi l'écriture parce que ça me permettait d'être à la fois solitaire et solidaire. Exactement ce trait d'union évoqué par Angelika Liddle, du cas particulier et de l'universel. Séverine Chavrier, lorsque vous entendez cette metteur en scène, Angelika Liddle, parler... à sa manière, d'une autre manière, de l'intensité. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
C'est difficile d'être à la hauteur, parce que s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est intense et qui a bien... qui se tient exactement à cet endroit de la douleur intime qui devient douleur universelle au prix de beaucoup de sacrifices et de mise en jeu et de mise en danger de soi-même, c'est bien Angélica Lidl. C'est vrai que quand j'ai su que l'émission, je vous ai dit tout à l'heure, était sur l'intensité, je me suis dit, j'ai pensé à deux personnes, j'ai pensé à Angélica Lidl et à Leonard Bernstein, je sais pas pourquoi, enfin homme, femme, voilà. Donc évidemment que quand on fait, enfin en tout cas sur quand on fait un spectacle, c'est vrai que je fais partie des gens qui essayent de travailler au plus près de mon intimité et d'inventer une langue qui vient de mes expériences intimes et qui peuvent tenir une place plus universelle.
Vous parlez d'une invention d'une langue. Angélica Lidl, dans cet entretien avec Laura Adler, dit aussi qu'elle touche parfois à l'insuffisance de la parole lorsqu'il s'agit de mettre en scène et de dire la souffrance d'un homme, la souffrance des hommes, qu'elle se bute comme ça aux limites du langage, que ce soit Faulkner ou que ce soit Mackenzie Orsel dans L'ombre animale. La question de la violence, de la mort, du viol est partout présente. Est-ce que vous avez vu aussi les limites du langage, des mots, du verbe?
Faulkner se débat énormément avec la langue. Il a dit d'ailleurs, si je vous le retrouve, voilà, j'ai passé 50 ans ou presque à essayer de me guérir de la malédiction de la parole et tout ça pour rien. Donc il se débat complètement avec ça. D'ailleurs, ça m'a fait penser, il a fait aussi cette expérience de faire parler d'une femme morte dans, évidemment, Tandis que j'agonise.
Bien sûr.
A dit la mère à tout ce monologue du lieu de la mort. Il a fait des tentatives formelles énormes, toujours très dangereuses, pour travailler aussi ses courants de conscience de chacun. Ce qui est assez beau, c'est qu'il donne à chacun, je trouve, l'opportunité en tout cas d'arriver à une prise de conscience fulgurante, quoi. Une sorte d'éblouissement comme ça, à force de dévoilement en fait. Et moi-même, oui, évidemment, ce qui est beau sur un plateau et aussi grâce à la musique, c'est qu'on a plusieurs médias pour pallier aussi à l'insuffisance de la langue, quoi. Déjà, on a le cri, on a le chuchotement, on a des niveaux déjà de sonores différents, et puis on a le son, l'image vidéo, plusieurs façons aussi de travailler sans parler. Voilà. Et c'est vrai que c'était une des gageurs aussi du projet que les corps étaient peut-être plus éloquents parfois dans l'amour que les paroles, et de travailler sur différents types de paroles. Par exemple, on a passé beaucoup de temps à travailler sur ce que j'appelle la parole après l'amour, c'est-à-dire une sorte de parole complètement détendue, qui est aussi de l'ordre de l'aveu, souvent assez logorique comme ça, et voilà, qui est pas du tout théâtrale pour le coup. A priori. Ou par exemple des chuchotements dans le noir. Grâce au HF, comme ça, on a travaillé sur des qualités de parole qui sont aussi des paroles nocturnes, enfin les paroles de la nuit, les paroles de l'amour, voilà. Et moi, c'est vrai que j'invente une langue qui est très souvent sur des très petites choses. Par exemple, il y a toute une scène sur le « c'est beau ça ». C'est-à-dire, à partir de cette petite expression, qu'est-ce que c'était que de montrer au public les endroits du corps de l'autre qui, pour nous, comptent. Et c'est beau, ça. Donc, il montre chacun les endroits qui... Ou le fameux « combien de fois on a fait l'amour » que vous me disiez que vous vouliez passer. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... l'amant, lui, compte les boîtes de conserve parce qu'il a peur... Il est omnibilé par l'argent et il pense que à la fin de, quand ils auront mangé toutes ces boîtes, ils seront dans la privation, et elle lui répond, mais au lieu de compter les boîtes, tu devrais compter combien de fois on a fait l'amour. Et elle pose cette question et voilà, elle essaye de développer un peu à partir de ce petit, voilà.
Est-ce que tu n'aimes pas ce que nous avons ? Est-ce que tu n'aimes pas ce que nous avons ? Est-ce que ça n'en vaut pas la peine, tout cet amour ? Serre-moi ! Est-ce que ça n'en vaut pas la peine ? Et tout cet argent que t'as volé, est-ce que tu ne referais pas aujourd'hui de le voler pour nous, pour notre amour ? J'ai jamais vu un homme s'efforcer à ce point d'être un mari. Est-ce que ça n'en vaut pas la peine, même si tout craque demain? Ça va pas craquer demain, tu m'entends?
Oui.
Ça va pas craquer demain, parce qu'il faut être fort.
D'accord.
Il faut être digne. Il faut être à la hauteur de cet amour. Suffisamment digne pour pouvoir le garder. Le garder. Combien de fois on a fait l'amour, toi et moi?
Hein?
Combien de fois on a fait l'amour? Toi qui aimes toujours tout compter. Combien de fois?
Je sais pas.
Depuis la première fois jusqu'à aujourd'hui, combien de fois? Réponds. Combien de fois on a fait l'amour? Combien de fois on a fait l'amour en tout? Dans une vie, combien de fois elle a fait l'amour, notre mère? Combien de fois elle a fait l'amour, la grosse adolescente qui trouve qu'elle a des énormes cuisses et des énormes seins et des énormes fesses pleines de brioches et qui voulait pas faire l'amour? Et puis que quand elle l'a fait, elle voulait encore et encore parce que c'est si beau. Combien de fois elle l'a fait, elle? Combien de fois elle a fait l'amour, la vieille dame qui a eu trois maris et qui voudrait encore?
Séverine Chavrier, un extrait, une captation sonore de votre spectacle adapté des Palmiers Sauvages de William Faulkner. Avant de revenir sur la performance de cette comédienne et en effet du travail du son, de la voix, du cri, de l'énumération, peut-être nous dire comment est-ce que vous découvrez cette nouvelle de William Faulkner dont je disais tout à l'heure qu'elle est parue en 1939.
En fait, je découvre d'abord Faulkner parce que j'ai l'impression que c'est un écrivain qui est très lié au son et ça me touche énormément. Par exemple, dans Le bruit et la fureur, toute la première partie qui est très obscure, vous parlez de carambolage des temps, alors là, pour le coup, c'est assez assez flagrant.
Avec le monologue de Benji, on peut juste raconter ce début.
Voilà, et Benji, en fait, hurle toute cette première partie, en fait. On est sous les hurlements de Benji. Pareil, dans Tandis que j'agonise, donc c'est des frères et sœurs qui accompagnent l'agonie de leur mère, et il y en a un qui construit son cercueil, donc il y a un bruit comme ça de clous pendant toute la moitié du roman. Et c'est vrai qu'il y a une attention au son chez Faulkner qui m'a énormément touchée, en même temps qu'évidemment une qualité, une intensité justement à plonger dans les êtres et dans notre humanité profonde. Et aussi un regard sur les femmes, c'est vrai, qui m'a vraiment touchée. J'ai entendu parfois qu'on disait que Faulkner était misogyne, mais il y a quand même des très 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 belles choses sur les femmes, à la fois dans un côté très blessé et quand même dans une chose très pleine d'humour et de compassion qui, moi, m'a touchée. Donc je cherchais un peu autour de Faulkner et je voulais à la fois revenir à une chose qui parlerait de l'amour ou de l'intimité. Et voilà, je suis tombée sur ce roman et qui est un roman assez particulier quand même de Faulkner, parce qu'il est très excentré, il se passe pas dans son petit comté, il est presque un peu autobiographique, enfin très étrange. Et voilà, je me suis dit qu'il fallait essayer de monter ça. En même temps, c'est un roman qui en fait alterne deux histoires, et ça on n'en a pas parlé. Et du coup, je n'ai monté que l'histoire d'amour.
Parce qu'en fait, hein, ce sont deux nouvelles, Si je t'oublie, Jérusalem et les palmiers sauvages, qui en effet discutent et se rencontrent en fait dans un livre sans jamais exactement se rencontrer. Mais on peut dire que c'est tout de même l'histoire de Charlotte et de Harry qui vivent leur passion amoureuse jusqu'à tuer cette passion amoureuse. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez intéressée par l'écriture de Faulkner parce qu'il campait des personnages féminins singuliers. Qu'est-ce que vous avez vu ou entendu chez Charlotte?
Alors je dis juste que le deuxième roman s'appelle Vieux Père.
Vieux Père,
comme
pardon.
Le nom de Mississippi, voilà. Et
Si je t'oublie, Jérusalem, c'est les deux.
Et l'ensemble, voilà. Et que ça s'alterne de chapitre en chapitre sans s'embrasser les mêmes personnages, mais qu'il y a des sortes de correspondances, en fait, qui se font, même d'humour commun qui se transmet. Charlotte, ce qui est assez beau, c'est qu'il en fait un personnage assez masculin, qui a une sorte d'indépendance comme ça de pensée, qui est pas du tout dans les canons de beauté, et qui a une sorte de brutalité aussi, une incapacité à être dans une tendresse qui ne serait pas brutale. Dans les peu de choses qui sont décrites de leur rapport, elle se couche près de lui et elle lui donne un coup de coude en voulant lui faire une caresse. Donc il y avait une chose comme ça un peu inversée, où lui était plutôt du côté de plus efféminé, plus plus dans le verbe, dans la parole, en essayant de comprendre, essayant de courir après cette histoire, et elle, beaucoup dans l'action et dans le faire, et on entend un peu dans l'extrait que vous avez passé, avec une conception de l'amour complètement absolue. Et c'est ça qui m'a touchée et que je voulais questionner, c'est-à-dire dans cet amour absolu, il ne s'abaisse pas à chercher les conditions de sa survie, mais du coup, il ne survit pas, c'est-à-dire à force d'aimer, aimer, enfin d'aimer l'amour, est-ce qu'on n'en oublie pas l'autre, est-ce qu'on ne devient pas aveugle à l'autre, voilà, c'est des questionnements qui m'étaient assez chers, assez... assez présents à l'esprit et que je trouve qu'ils sont touchés avec ce roman.
C'est d'ailleurs une recherche de l'absolu pour ces deux-là et pour elle en particulier qui passe par la sexualité. Sexualité que vous montrez, non sans humour parfois, mais toujours avec beaucoup d'intensité sur scène. Comment est-ce que vous avez travaillé? Tout à l'heure, vous disiez, on a cherché les paroles et les mots et le souffle qui viennent après l'amour. Comment est-ce que vous avez travaillé la nudité, l'engagement des corps, les scènes de sexe?
Oui, c'était un des sujets et un des enjeux du spectacle, c'est-à-dire que cette histoire, pour moi, elle tenait si c'était vraiment une histoire très sexuelle, et j'ai l'impression qu'entre eux, il y avait une grande entente sexuellement, lui découvrant la sexualité avec elle, ce qui rajoute encore peut-être de l'intensité, et bah, des exercices, des mises en jeu, je dirais, pour essayer de montrer le désir sur scène, Et de travailler avec l'humour du théâtre, enfin avec les contraintes du théâtre. Voilà, et ça a été tous les jours, on passait un peu de temps à essayer d'inventer quelque chose autour de scènes d'amour avec deux comédiens qui se sont prêtés au jeu, qui sont Laurent Papeau et Déborah Roache, et qu'on fait, c'est vrai, un gros travail pour essayer de décaler. Je crois que c'est par l'humour qu'on arrive aussi à sur scène. Enfin, c'est pas le cinéma, quoi, à montrer la sensualité des corps.
Quand vous dites, on s'est aussi servi de l'humour que nous propose le théâtre ou la scène de théâtre. Il y a notamment un moment où ça s'emballe, où l'homme dit, oulala, ça va un petit peu trop vite pour moi. Et puis c'est la comédienne qui incarne Charlotte se jette sur lui. Il dit, mais tu n'enlèves pas ton micro. Et d'un seul coup, on est vraiment là encore dans un carambolage des temps, parce que le comédien s'adresse à la comédienne qui a son micro autour de la taille, et en même temps, on est toujours dans Faulkner. Sur quoi vous jouez lorsque vous nous permettez de prendre un tout petit peu de distance par rapport à cette tragédie amoureuse?
À chaque projet, on cherche un peu à savoir quelle dramaturgie on essaie de mettre en place aussi par rapport au public, enfin au regard du public. Et petit à petit, en fait, la dramaturgie qui s'est installée, c'est aussi la prégnance de la nuit et du noir, puisque il y a même des vidéos en fait qui filment dans le noir, ce qu'on appelle le vidéo infrarouge. Et comment on fait assister des gens à une histoire d'amour. Alors on se disait, peut-être qu'ils sont tellement bien dans leur histoire qui permettent aux gens d'y assister. Et en fait, on joue comme ça avec cet aller-retour entre l'illusion de la fiction et le réel. Voilà ce qui nous permet aussi de prendre de la distance et de jouer avec l'hyperprésence. C'est quand même dommage de monter Faulkner si on n'essaie pas de travailler sur la temporalité et sur le mélange des temporalités.
Séverine Chavrier.
Pardon, il y a plusieurs façons de. Il y a aussi des choses un peu de. Je sais pas de citation. Il y a par exemple cette scène qu'on appelle Adam où il installe tous les matelas sur le plateau comme si le plateau pouvait être un immense lit. Ça aussi, c'est une rêverie complice avec le spectateur et où il cite à l'envers le mépris de Godard, c'est-à-dire elle aime mes fesses, elle aime mes bras, elle aime etc. Enfin, cette première partie, en tout cas, qui raconte la passion amoureuse, c'est une sorte de variation, c'est des multiples variations sur le thème du désir, voilà.
Le désir et l'intensité amoureuse ne sont pas du tout absents de votre propre texte, Mackenzie Orcel, et cette voix de femme morte, elle dit aussi son corps, alors ça n'arrive pas forcément tout de suite dans le roman, mais l'amour, l'obsession pour un homme, le fait de vouloir faire l'amour avec lui, le fait de vouloir le toucher, c'est quelque chose qui est presque rendu plus vivant que vivant alors qu'elle parle depuis les morts.
Oui, c'est-à-dire qu'on a besoin de se sentir aimé, d'être aimé, d'aimer. On a besoin de vivre. Et Et ce besoin relève du fait que c'est un corps, c'est un corps, c'est une femme, c'est un être vivant, c'est quelqu'un qui parle du Dieu de la mort, mais qui parle de sa vie d'avant aussi. C'est-à-dire avant, c'est quelqu'un, elle avait une enfance, une famille, un lieu et tout. Et donc oui, elle parle de ce besoin d'aimer, de ce besoin d'être dans la vie, de sentir l'intensité de la vie autour d'elle.
Est-ce que ça a été évident pour vous que c'était une femme qu'il fallait faire parler ?
Oui. Déjà dans Les Immortels, mon premier roman, c'était la voix d'une femme.
Une prostituée.
Je suis un peu même très obsédé de ça, quoi. De me glisser dans la peau d'une femme ou d'un enfant. J'aime bien parce que moi, je trouve que c'est... la voix d'un enfant ou la voix d'une femme, c'est plus juste.
Peut-être
que je sais pas, je trouve que ça a plus de force, la voix d'une femme. C'est pas parce que, c'est peut-être parce que j'ai grandi avec des femmes, j'ai toujours eu des femmes autour de moi, des femmes fortes, parce que la société haïtienne, c'est une société dans laquelle on voit que, majoritairement des femmes, c'est-à-dire, elles sont là, elles sont solides, elles font tout, et les hommes, ils finissent toujours par partir ou par abandonner la cause. Et elle reste. Elle reste. Elle parle pas et peut-être jamais. Mais je sais qu'elle...
Elle ne parle pas.
Et ben je sais qu'elles ont beaucoup de choses à raconter et à nous dire. Et moi, je me glisse dans la peau d'une femme pour essayer de comprendre, de saisir ce qui se passe dans la tête d'une femme. D'une femme, tout simplement, pas une femme haïtienne, la tête d'une femme qui parle pas.
Qui parle pas et qui, du coup, se retrouve à parler dans l'écriture. C'est aussi ça, écrire des livres.
Dans l'écriture ou dans la vie, moi, j'aurais aimé que les femmes, elles parlent plus, quoi. Elles disent, oui, on est là, on est vivant, on a des choses à raconter. Moi, j'aimerais
vous
bien.
Vous parlez au passé, quand vous dites j'aurais aimé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir?
Ben, ouais, il y a toujours de l'espoir. Mais c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde. C'est les hommes qui parlent majoritairement. Et donc moi j'aimerais que ça soit des femmes, des voix de femmes qui nous racontent des choses, des histoires ou qui nous ouvrent les yeux sur la vie, sur notre condition d'humain.
D'ailleurs, ce texte qui, on l'a dit tout à l'heure, n'a quasiment ni début ni fin, qui se termine sans avoir eu de majuscules et de points par trois petits points, il va falloir raconter quelque chose. C'est une façon de passer le bâton de la parole, si possible, à des femmes.
Le mouvement de la vie. Le mouvement de la vie, le mouvement de l'éternité. C'était aussi une façon d'établir un autre rapport, d'essayer d'établir un autre rapport avec la langue, de faire parler la langue, de la pousser à ses limites, ou la pousser à dire des choses qu'elle dit pas d'habitude, qu'elle hurle, qu'elle pleure, qu'elle manifeste sa présence au monde.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richaud.
14h49, l'heure de manifester sa présence au monde à cette heure-ci. Chaque jour, nous demandons à quelqu'un de nous raconter un moment marquant. Et cette semaine, c'est avec le chef cuisinier Anthony Cointre que nous avons rendez-vous. Il posera ses valises et ses bons produits du 14 janvier à mars prochain au restaurant Les Nôtes à Paris. Et c'est d'ailleurs dans ce même endroit chaleureux que nous l'avions rencontré fin décembre. Aujourd'hui, il nous parle d'Henriette et de Placide, ses grands-parents.
Ils avaient une vigne à... Ruyé-sur-Loire. C'est très beau, hein, c'est vraiment le début de la Touraine, enfin, c'est au sud de la Sarthe, où on fait du coteau du Loir. Ils n'avaient rien, ils ont quatre arts, tout petits, de rayons. Il y avait la cave, et donc il y avait Henriette. Elle avait des cheveux blancs, elle avait toujours, pour tenir ses cheveux, elle avait toujours un filet. C'était l'érotisme de l'époque, qui faisait de très bons gâteaux à la crème de lait. C'était le truc et tout. Tout le monde attendait dans la famille qu'elle sorte sa boîte de galettes Mont-Saint-Michel. Dedans, il y avait les gâteaux à la peau de lait. Super bon. Et à côté, donc, il y avait la cave et puis cette petite vigne qui était exposée super bien, comme il faut, où il y avait le brouillard le matin et puis le soleil l'après-midi. Donc, ça faisait. Il y avait des fois de la pourriture noble. Et c'était beau. Enfin, c'est vraiment le côté encore. Image d'Épinal, de la vigne, avec en bas le Loir, Et puis le vin, bon, le vin, ils faisaient pisser ça. Enfin, c'était pas un vin qui était bon. Mais bon, ils faisaient leur vin, voilà, c'était encore ça. Et puis à côté, avec Henriette et Placide. Et Placide était taxi et tenait le bar d'à côté. Alors ça, je ne l'ai pas connu, mais c'était à côté de la gare de Ruillé qui n'existe plus. Enfin, la gare existe, mais la ligne passe plus. Et donc voilà, ma grand-mère et mon grand-père me racontaient toute l'histoire, parce qu'eux, ils sont de Courdemanche à côté. Et donc, en 36, voilà, il y a Placide qui tenait le bar de la gare, mais le bar, il était loin du village, quoi. Et donc, il faisait taxi aussi. Donc, quand les trains arrivaient, voilà, en 36 et tout, hop, il emmenait les gens. Et donc, ça fait des images, moi, du café, de tout ça. Je suis imprégné de ça un peu, cette nostalgie un peu bancale, mais sympathique quand même. Puis que j'ai connu. Puis justement, on récupérait les petites boîtes, les choses. Il y a des choses que, à la mort de Placide et Henriette, ma grand-mère m'a donné des... J'avais sa blouse de taxi. J'avais sa blouse grise de taxi que je mettais à l'époque pour faire mon pseudo-rebelle adolescent, qui n'était pas très beau, enfin c'était vraiment... Et des petites lunettes rondes dans un boîtier en bois, enfin des choses comme ça et tout. Et ça fait mon roman et mon historique familial. Et puis le début aussi de mon intérêt pour le vin. Bon, enfin, j'en buvais pas, puis c'était infect. Et puis avec... Il devait faire pisser la vigne, enfin c'était... d'ailleurs, la vigne, elle en a crevé tellement il la faisait pisser, puis qu'il la faisait traiter, parce que maintenant, elle existe toujours, cette vigne, mais c'est quelqu'un d'autre, un autre gougnafier qui s'en occupe. Et donc, voilà, c'était le début de mon expérience dans les vignes et tout cet historique, tout cet imaginaire familial des congés payés en 36.
I lost myself on a cool, damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see. And be what I want to be. When I think more than I want to think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady, like my love. Lilac wine.
Lilac Wine, c'est une chanson écrite et composée par James Shelton en 1950 qu'on entend ici dans l'interprétation de Jeff Buckley. Mackenzie Orsell, il y a quelque temps, sortait un recueil de poèmes, La Nuit des Terrasses, qui parlait aussi du vin, de l'alcool, des bars, d'autres intensités,
oui,
de la vie. Quand on entend cette voix chanter une vieille chanson des années 50 qui célèbre l'alcool comme un endroit de retrouvailles avec l'amour, c'était là aussi un lieu d'intensité.
Ouais, c'est toujours intense, vous savez, dans les bars, de voir autant de monde danser, boire des coups, raconter des histoires et tout. Moi, j'adore les bars. Quand j'arrive dans une ville, la première chose que je fais, je demande où se trouve le bar branché de la ville.
Branché, ça veut dire quoi, le bar branché?
Bon, le bar branché, c'est-à-dire, c'est le bar qui résume le mieux cette ville.
Bah, bravo, bonne chance, c'est quoi à Paris?
À Paris, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a plein. Et donc, il y en a beaucoup, 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 beaucoup à Paris. Et moi, j'adore les bars. Mais mon seul regret, c'est que... Bon, c'est pas un regret, mais c'est un constat. J'arrive pas à travailler dans les bars. Donc, c'est...
Et sinon, c'est où le travail ou les bars?
Ou le travail ou les bars. Bon, ou le travail ou l'alcool.
Ou le travail ou l'alcool.
Ouais. Donc, j'ai besoin de cette lucidité, de savoir ce que je fais, de savoir que là, je suis en train d'écrire et que je ne suis pas en train d'écrire n'importe quoi.
Mackenzie Hursel, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour évoquer L'ombre animale, ce roman paru chez Zulma. Et merci à vous, Séverine Chavrier, d'avoir été au téléphone depuis Arras pour évoquer votre travail autour des palmiers sauvages de Faulkner. On mettra aussi les dates de votre prochaine création autour de Thomas Bernard. Mais on peut déjà dire qu'à Arras, au théâtre, à ce jeudi, se joueront les palmiers sauvages. En 2016, nouvel horaire et aussi nouvelle résolution. On passe un coup de téléphone chaque jour en fin d'émission. Aujourd'hui, à Nadia Vadori-Gauthier. Bonjour.
Bonjour.
On vous passe un coup de fil pour évoquer ce projet Une minute de danse par jour qui a fait une sorte d'anniversaire aujourd'hui. Lequel ?
Ça fait à peu près, pas tout à fait un an que j'ai commencé à danser. Depuis le 7 janvier 2015, en fait, depuis les attentats de Charlie Hebdo. J'ai eu envie moi aussi d'œuvrer à ma façon, comme un manifeste sans parole, de connecter des intensités de vie.
Et du coup, vous vous astreignez à une minute de danse par jour. Alors, on peut les voir sur Internet. C'est une minute de danse qui a lieu dans différents lieux de la ville, de la forêt, de chez vous. Comment ça se passe? Vous dansez à n'importe quel moment du jour et de la nuit?
Voilà, à n'importe quel moment, dans les états de corps et enfin dans les états dans lesquels je me trouve, dans les lieux, sans les préméditer, avec ce qui est là. Donc, ça peut être des inconnus, la ville, effectivement, mais aussi... des gens que je connais ou seuls, la matière, l'environnement.
Il y a une vidéo, par exemple, pour ne citer qu'elle, où vous dansez près d'un homme qui est en train de faire des travaux dans la ville et on sent que sa porosité ou sa disponibilité à votre danse est parfois limitée. Vous trouvez plutôt des compagnons de danse ou des réticents à vos danses quand vous dansez à l'extérieur?
J'ai fait quelques danses avec des travaux publics et moi, je pense que peut-être vous parlez d'un ouvrier qui avait peur que je touche aux canalisations du gaz. Donc, il y avait un danger potentiel pour moi parce qu'en général, les gens sont... plutôt bienveillant, parfois un peu dubitatif, où ils se demandent ce qui se passe, mais ils sont plutôt chaleureux en général.
On peut retrouver toutes ces vidéos de danse, une minute de danse par jour sur Internet, on mettra le lien et on mettra aussi le lien vers une série de rencontres qui vont avoir lieu dans les jours prochains. Merci beaucoup Nadia Vadori-Gauthier d'avoir conclu cette émission avec nous. C'est la fin des nouvelles vagues. Pour réécouter celle-ci ou celle d'avant, rendez-vous sur franceculture.fr. Vous pourrez aussi vous abonner au podcast pour n'en louper aucune et nous écrire via le formulaire de contact. Chose possible via Twitter ou Facebook, nous vous lisons toujours avec plaisir. Merci à Romain de Bec-de-Lièvre, Alice Ramon, Inès Duperron qui pense et prépare cette émission avec moi, une émission réalisée par Somanina, avec aux manettes aujourd'hui Jean Guilin et au droit d'auteur Sophie Guéroux. Dans un instant, retrouvez Culture Musique.